Voilà. Alors, ces journées sont assez critiques. Et je voulais, aujourd'hui, vous parler d'une des réflexions que je mène dans le cadre de ma thèse. Réflexions sur le tradition musicale particulière. Alors, ma thèse porte sur une série d'enregistrements sonores qui ont été réalisés entre 1915 et 1916 auprès de Neusgunda Korps. Et parmi les enregistrements, les 30 enregistrements réalisés, l'un m'a particulièrement intrigué et je pense mérite qu'on s'y attarde aujourd'hui dans le cadre de nos réflexions sur la tradition et l'innovation. Alors nous sommes le 21 novembre 1916. Vous avez ici à l'image le cadre d'une enquête ethnographique qui est menée dans le corps allemand de Königsbrück, l'Allemagne. Et en sur de la Corse, du nom de François Razor, se trouve face à une équipe d'ethnologues, de musicologues. Et l'objectif de ces scientifiques, c'est d'enregistrer des milliers de chants, promener des analyses comparatives en littérature, en linguistique et en musicologie. Et afin d'illustrer la tradition musicale de son pays, c'est-à-dire de sa ville natale, François Razor va interpréter en beau duo une orientation funèbre. Donc je me propose de l'écouter, si j'arrive à. Donc vous avez François Razor à gauche à l'écran, et un chant donc, qui interprète ce fameux 21 novembre 1916. Ce chant qui est en fait présenté comme authentique et représentatif de la culture de ce soldat pose de nombreuses interrogations. Alors, car mais, en fait, les lamentations, si on est en recherche, les lamentations improvisées à l'occasion d'un deuil ont été une pratique très controversée et sur le déclin selon différentes sources du 18e. Et après l'analyse du chant, de la mélodie, du texte, du timbre de la voix du prisonnier, il apparaît vraiment clairement que cette lamentation n'a jamais été une véritable lamentation improvisée en cas d'un deuil. C'est vraiment d'un autre type d'expression. Et je pense, c'est ma théorie, que François Razor, il a plutôt en fait mémorisé lors de soirées littéraires, de soirées musicales récréatives, plutôt que lors du funérailles. Et ce chant évoque une toute autre époque. Celui-là, il évoque le contexte historique de domination génoise. Et puis surtout, en fait, son inspiration dans différents textes, notamment celui de Otto Vasé, publié 75 ans plus tôt, celui de Jean-Baptiste Marcadji, publié en 1887. Et donc, pour comprendre ce phénomène, j'ai remonté donc cette histoire de l'inventation du Genève. Et j'y ai découvert une transformation en fait que rien ne laissait présager. Pour mesurer l'ampleur de cette transformation, il faut d'abord observer donc la situation en 18e et plusieurs témoignages concordent et révèlent un réel dédain en fait pour cette pratique musicale improvisée. Je pense notamment au témoignage du colonel de Petitcombe qui était au service des passe-croix. Et son témoignage est vraiment révélateur. Explique en fait que dès 1750, il condamne avec fermeté toutes les improvisations funèbres qui qualifient de mauvais usage. Lui-même ayant assisté à de nombreux enterrements, se dit que c'est son tard, il affirme que le groupe n'est plus en fait pratiqué. Si c'était peut-être que dans quelques villages a perdu gangrène. De même, même témoignage, même son de cloche. Du côté de James Boswell, qui, en 1765, évoque l'alimentation en des termes encore plus durs, évoque des cris épouvantables. Et c'est assez surprenant pour la part de James Boswell, qui est le premier chroniqueur, écrivain, qui parle de manière. Parle des chants populaires de manière extrêmement valorisante dans son ouvrage, qui va s'intéresser à la pratique de la chétra, qui va s'intéresser à différentes pratiques instrumentales, aux chants populaires aussi. Voilà, donc tous ces témoignages concordants le sont à la fois par des observateurs extérieurs, anglais, mais aussi en réponse même. Ça, c'est assez étonnant. Et tout change en fait avec la publication d'un ouvrage qui va révolutionner la perception des lamentations funèbres, qui est celui de Benson, qui est un avocat britannique chargé d'exécuter les legs de Pasqua de Pau, et qui publie en 1825, pour la première fois, un ouvrage qui fait l'éloge en fait des lamentations funèbres. Et Benson en fait perçoit quelque chose de tout à fait nouveau dans ces lamentations, qui vient en fait avec le contexte philosophique de son époque, d'y voir dans ces lamentations en fait une délicieuse terreur, une expérience esthétique du sublime par la confrontation à la mort, que théorise notamment Kant en 1790. Et l'impact de ces publications de Benson est absolument immédiate et spectaculaire. Son récit voyage est remarqué par la presse spécialisée dès sa sortie. Et ben, Bruxelles, en fait, tout au long du 19e et début du 20e, la littérature et la production musicale. Je pense notamment à Constant Mérimée, qui est en Corse en 1829 et qui pourtant publie Mathieu Felpin. Et à partir de là, l'euro du roi de bien en motif à la mode, notamment sous la plume de cet inspecteur de mode Morrison. Le couronnement de cette mode a lieu, pour moi, précisément en 1838, notamment à l'occasion d'un prestigieux concours musical qui choisit cette année-là la Binette et le roi du roi comme sujet d'édition. Et il s'agit, comme vous voyez à l'écran, du Grand Prix de Rome, auquel participent les compositeurs Charbonneau, Georges Bousquet, Henri de Ruyos, qui s'emparent du motif et qui font en fait, entrer les lamentations funèbres dans ce panthéon de l'art français, puis de l'art contemporain. C'est assez étonnant, c'est des choses qui sont peu connues, je pense, et qui vont en fait donner lieu à la création au moins d'une vingtaine d'œuvres lyriques tout au long du 19e et début 20e. Alors je vais les citer rapidement, ces œuvres lyriques, parce qu'elles sont très nombreuses. Je vais en mentionner les plus importantes. On a donc celle de Robin Williams, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était composée dans le cadre du Grand Prix de Rome. Nous avons aussi René, qui s'empare du sujet et s'intéresse donc à la lamentation funèbre. Saint-Saëns également, dans l'ancêtre. Également en Russie, au théâtre de Golchord, où César Pouy harmonise et met en musique ses lamentations. Et enfin, dernier exemple, qui est assez étonnant, Chaîne de Charles Méret, sur musique de Philippe Bachelet, qui s'inspire de mélodies traditionnelles et pour la petite histoire, va pour la première fois écrire une pagaille à trois voix, donc, de mémoire, etc., étant composée en 1911. En 1911, dans les théâtres lyriques français, vous aviez la possibilité d'entendre une pagaille à trois voix. Il fait la rotation fine. Donc ainsi, c'est voilà, ce dont je voulais vous parler, qui est assez étonnant en fait, c'est que quelques années, Les lamentations funèbres, on passe de mauvaise coutume à un symbole de la culture insulaire. Et le terme même de vocero apparaît dans le dictionnaire de la langue française en 1870, ce qui est assez étonnant. Et je pense que c'est la seule pratique populaire, le seul chant populaire qui figure dans un dictionnaire de la langue française, c'est quand même assez surprenant. Et dans cette histoire qui paraît assez simple, on a l'impression finalement que les lamentations funèbres ont fait juste l'objet d'un intérêt mondain, mais les choses en fait sont beaucoup plus complexes que cela. Et c'est là où intervient Niccolò Tommaseo, qui est une figure majeure mais méconnue de cette histoire, et qui publie en 1841 ses Canti Popolari, qui est un monument, donc un sondage extrêmement intéressant, qui va en fait marquer la manière dont les lamentations funèbres sont interprétées et comprises et parfaites comme ça. Alors que les cercles artistiques et littéraires européens, voire dans le monde l'exotisme romantique, Tommaseo, lui, en fait une pratique littéraire vivante. Ça, c'est tout à fait étonnant. Déduit scientifiquement ses chants, on propose un modèle linguistique, on propose un modèle littéraire rigoureux, mais surtout, en fait, jette les prémices d'une pratique artistique, politique, musicale. Et mais très important, la grande source de Tommaseo, qui s'adresse aux Corses même, s'adresse à eux, leur fait part de ses inquiétudes face à l'oubli de la langue. Et donc, ils proposent tout simplement de transformer cet objet à la mode en héritage littéraire du siècle conscient bien sûr. Et son œuvre, en fait, je pense, va donner en fait forme à une nouvelle va donner lieu à une nouvelle forme de transmission qui ne sera ni purement orale, ni simple collecte, mais réinvention savante au service de la communauté. Et on peut constater tout au long du 19e jusqu'aux années 30, de nombreuses revues folkloriques et journaux corses, qui ont fait part de cet intérêt nouveau, c'est de ces créations littéraires autour des lamentations funèbres. Voilà, je vais conclure parce que je pense que j'ai pas d'opportunité. Bon, revenons notre prisonnier, François Razor, et son enregistrement de 1916, qui est très intéressant parce que, en fait, son chant puise librement dans la littérature de Tommaseo. Il emprunte la mélodie du chant au répertoire traditionnel, utilise les micro-intervalles dont on parlait Baptiste. Je ne sais pas si tu l'as entendu dans cet enregistrement, mais c'est assez clair. Et chose assez étrange, c'est qu'il adopte le phrasé fluide du bel canto. Donc, qui était une technique vocale qui était très à la mode à la Bastia et qui était diffusée notamment sur gramophone dans les républiques françaises de la Douro. Et bon, ce chant, en fait, est une hybridation assez intéressante entre héritage, emprunt et innovation. Et je vous ai mis cette partition parce que c'est assez intéressant. C'était aussi, je pense, pour l'Europe, une manière aussi de s'opposer à une vision caricaturale qu'on peut avoir en Corse, à Paris. Vous avez un exemple de partition, j'en ai trouvé de nombreuses, de chants corses, ce qui était interprété sous le bon parisien. Au début du 26, 20e siècle. Voilà, je voulais donc vous présenter ce chant pour apporter du grain à moudre à vos réflexions et essayer de comprendre en fait quels peuvent être les mécanismes qui sous-tendent, soit par entre eux, l'innovation et l'art. Moi, je me pose quand même une question, c'est comment par quel mécanisme le public en fait détermine ce qui est légitime ou non. Comment les Corses du XVIIIe siècle, qui ont rejeté l'élément passion, les ont adoptés, ont fait finalement un symbole au XIXe, XVIIIe. Ces mécanismes, je pense qu'on est vraiment intéressant à comprendre et à poser. Et pour moi, l'exemple, en fait, de cet exemple, nous enseigne, ce que nous avons vu là, ce matin, que la réponse à cette question, en fait, elle est plurielle. Ce champ-là nous invite évidemment à une certaine ouverture d'esprit, à cloisonner les expressions, à revisiter des formes volontairement oubliées de notre héritage, et puis surtout adopter l'approche interdisciplinaire, où langue, musique, littérature, photographie, poésie, apportent chacune leur contribution. Voilà, je vais conclure sur ça. Merci à vous. Voilà, je laisse la parole aux personnes qui sont.
Ainsi, on peut prendre un petit temps d'échange pour échanger avec Baptiste, Avanda et Philippe. Attention à ne pas jeter aux orties les romantiques, vous l'avez suggéré. Ce sont les romantiques allemands qui sont à l'origine du renversement du paradigme. Pour eux, la culture ne vient pas d'en haut, la vraie culture, elle vient d'en bas et elle légitime la notion de peuple. Ce sont eux qui sont à l'origine de ce grand mouvement qui existe encore aujourd'hui.
Et en fait, je ne sais pas si c'est ressenti, il n'y a aucune forme en fait de jugement dans toutes ces formes, qu'elles viennent finalement au savoir par les Irans, ou la progression, par exemple, entre part ce que vous aimez, mais je pense que l'objet là de cette intervention, c'était surtout d'expliquer que la tradition, c'est toujours l'origine, en fait. Éléments très divers, d'origine très diverse. Et que en fait, les problématiques là qu'on se pose aujourd'hui, savoir quelles sont avec les tensions entre innovation et création, en fait, qu'elles se posent déjà il y a un siècle, 2 siècles. Ce sont des choses tout à fait récurrentes, que chaque génération, en fait, est confrontée à ces questions-là. C'est avec plaisir que je pense que le rideau des lamentations est passé, que c'est une thèse de mots, par cet engouement qu'ils ont suscité au 19e, dans les théâtres lyriques. C'est aussi le fruit de cet histoire.